Salut les smarts et salut les marques, et bienvenue sur Catch Up, le podcast officiel des Cahiers du Catch qui regarde, résume et analyse pour vous les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armbar et pour commenter le Monday Night Raw du 31 juillet, j'ai avec moi celui qui était déjà là la semaine dernière avec Hank, celui qui généralement est plutôt bleu que rouge, Giscal.
C'est ça, la température remonte, du coup je rougis et me voilà deux semaines de suite à Raw.
Mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu commences à voir la lumière, que Raw est mieux que SmackDown. Et...
Écoute, on va en parler, je ne suis pas persuadé cette semaine.
Ouais. J'avoue que bon, c'est peut-être pas le meilleur des shows pour te faire changer d'avis, mais bon, tu vas quand même regarder et on va quand même en parler ensemble.
Exact.
Donc, c'est comme je disais, 31 juillet, plein cœur de l'été, à quelques semaines maintenant de SummerSlam. Et ça se passe où? Ça se passe à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Pittsburgh.
Qu'est-ce que je dis? Pittsburgh. Mais oui, parce que Philadelphie n'est pas la ville de Kurt Angle, alors que Pittsburgh est la ville de Kurt Angle. Et donc,
absolument,
c'est naturellement lui qui débarque, le general manager, pour commencer le show. Donc, il nous annonce forcément que ce sera un super show, que ça fait. C'est l'anniversaire, là. Il avait gagné sa médaille avec un putain de coup brisé, comme il le dit, il y a maintenant quoi, 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Bref, oui. Ouais, 21 ans qu'il a gagné sa médaille olympique. Il est tout content puisqu'il y aura son fils ce soir, donc Jordan, qui sera l'invité de Miss TV. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, hein, quand tu es plutôt fait, c'est que ton fiston est l'invité de Miss TV. Ça sent le sapin.
Ça sent pas bon.
Non, c'est clair. On aura aussi du coup un match entre Big Show et Big Cass, hein, le match des géants, et un autre match de géants de gros poids lourds, à savoir un triple threat entre Samoa Joe, Braun Strowman et Roman Reigns, donc qui affronteront, comme on le sait depuis la semaine dernière, Brock Lesnar à SummerSlam pour un Fatal 4-Way, que vous avez appelé avec Hank le Fatal 4-Way, le SummerSlam de l'apocalypse à cause de ce match. Ça peut être une apocalypse,
c'est ça.
Et... justement, ce soir, cette soirée peut être plus apocalyptique que Kurt Angle le pensait, puisqu'il est coupé, il est interrompu par la musique de Brock Lesnar, la bête, le champion universel, qui était pas prévu du tout, qui débarque forcément avec Paul Heyman. Et c'est Paul Heyman ce soir qui fera donc le blabla. En gros, Paul Heyman vient le voir et lui dit « Oui, monsieur Angle, je vois très bien l'angle que vous faites en ce moment, donc petit jeu de mots de Paul Heyman, vous voulez en gros que mon client Brock Lesnar perde à SummerSlam, puisque forcément, Fatal 4-Way, l'avantage du champion est annulé, donc il y a beaucoup plus de chances que Brock Lesnar perde. » Et là, Paul Heyman met son petit grain de sel dans cette histoire en disant « Bah écoutez, c'est simple, si Brock Lesnar perd, eh bien Brock Lesnar, il quitte la WWE.
»
Mais bon, on s'en fiche, puisque de toute manière, il perdra pas, puisqu'il y aura forcément une annonce à la fin que le gagnant est toujours le champion défendant conquérant, blablabla. Brock Lesnar, la bête incarnée. Donc sur ça, il s'en va. Avec cette annonce tonitruante, qu'est-ce que tu en penses? Brock Lesnar qui quitterait la WWE s'il perd son match et sa ceinture à SummerSlam.
Écoute, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette petite intro. Qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part, parce que du coup, la WWE se sert un petit peu, surfe un peu sur la vague de l'annonce qu'il y a pu avoir pour ceux qui suivent l'UFC, puisqu'au dernier pay-per-view, pour ceux qui savent, John Jones, après avoir regagné son titre a lancé un challenge à Brock Lesnar, hein, pour un money match, hein, pour un match de prestige. Il veut faire revenir Brock Lesnar dans l'octogone. Et du coup, moi, écoute, j'y vois un petit peu un bon petit coup de com de la WWE qui joue un peu là-dessus, du coup, pour semer le doute sur les résultats de son futur main event de l'apocalypse, comme tu as dit, à SummerSlam, puisque outre le fait que le Fatal 4-Way est par définition une stipulation qui laisse du coup la porte ouverte à plein de choses, à des surprises, à des vainqueurs surprises, du coup là maintenant on jette encore un petit peu plus de doutes sur le fait que est-ce que Brock Lesnar sera là à la WWE après SummerSlam. Donc écoute, que ce soit du flan ou non, moi je trouve que c'est bien joué, parce que du coup forcément ceux qui font les connexions, ceux qui suivent beaucoup sur internet les rumeurs patati patata, du coup ils y voient des indices, donc ils se disent « Ah, machin, c'est pour ça, c'est pour ça ». Donc, écoute, même si c'est pas pour ça, eh ben, c'est plutôt pas con.
Parce que du coup, ça serait pas une erreur, je vais pas te couper sur cet angle-là, vas-y. Justement, qu'il n'ait pas cité le fait, bah, écoutez, c'est simple, si vous faites un match aussi panier de crabe envers mon client, donc un match Fatal 4-Way sans nous avoir consulté, donc vous nous l'imposez, alors que Paul Heyman est toujours quelqu'un qui négocie les matchs pour ses poulains, bah, dans ce cas-là, pourquoi pas accepter effectivement la proposition d'aller toucher un beau paquet de pognon à l'UFC? Pourquoi, d'après toi, ils n'ont pas cité ou fait écho plus que ça à l'UFC?
Je me dis parce que soit, parce que bon, d'ailleurs c'est très probable, rien n'est fait. Et puis à la limite, je préfère plutôt l'approche de ne rien citer et de laisser faire les gens le rapprochement eux-mêmes pour ceux qui comprennent ce que ça pourrait impliquer. Les laisser faire le rapprochement eux-mêmes, je trouve justement, brouille encore plus les cartes peut-être dans l'esprit de certains, alors que le citer ouvertement, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt habile, mais en effet.
Oui, non, c'était plutôt fin. Après, ça aurait fait un gros truc de buzz si Paul Heyman avait dit oui, mon client, s'il perd, retourne à l'UFC, ça aurait fait les unes des.
C'est ça, exactement.
Sur le web. Mais bon.
C'est mieux que ça arrive dans. Voilà. Ouais. Vas-y, je t'en prie.
Petite question durant ce petit segment intéressant, forcément Paul Heyman décrit les différents adversaires, hein, de son poulain la bête, donc celui qui a enterré l'Undertaker et fini sa carrière Roman Reigns, le monstre qui serait dans tout autre paradigme possible déjà champion si c'était pas Brock Lesnar le champion, c'est Braun Strowman. Et donc ce chip shot artist, comme il dit, disgrâce Samoa Joe. Et là il dit à Kurt Angle, ah mais c'est ça, je sais que tu veux, toi Kurt Angle, en fait, que ce soit Samoa Joe qui gagne. Pourquoi, ouais, d'après toi, Paul Heyman dit à Kurt Angle que c'est Samoa Joe, son poulain, son chouchou, pour gagner?
Alors là, j'ai pas trop d'avis sur la question. C'est vrai que j'étais un peu surpris. Pourquoi est-ce qu'il pointait du doigt? Par définition, j'aurais plutôt penché, pour citer Roman Reigns, qui est une tête d'affiche, une tête de gondole, quand même plus évidente.
Kurt Angle est face, donc.
Et puis Kurt Angle est en face. C'est vrai que j'ai pas trop. Est-ce que c'est pour? Je sais pas. Est-ce que c'est pour prolonger cette rivalité un petit peu qu'il y a avec Samoa Joe, que j'aime bien, parce que c'est vrai que Paul Heyman, qui a toujours le souci d'encenser de manière indirecte toujours les adversaires de Brock Lesnar, très habilement, toujours, hein, en gardant sa bête au-dessus de la masse, mais toujours en mettant en valeur les adversaires. Ce qui était drôle d'ailleurs, de présenter Roman Reigns en tant que pourfendeur de l'Undertaker. On a bien vu le petit sourire en coin de Brock Lesnar quand il a dit ça, genre.
C'est moi.
Ouais, been there, done that. Tu vois ça, mais du coup, de présenter Samoa Joe comme un cheap shot artist, j'ai trouvé que c'était malin. Peut-être qu'il y aura un rematch dans le futur entre les deux. On fait monter l'attention. Après, de savoir pourquoi est-ce que il a mis en avant Samoa Joe vis-à-vis de Kurt Angle comme ça, je sais pas trop. C'est vrai que il n'y a pas d'indice de storyline qui pourrait justifier quelque chose.
Hormis le fait que, aux dernières nouvelles, qu'on ait vu Triple H dans le main roster, hein, Samoa Joe était un peu son bras à la destruction, Kurt Angle bosse pour Stephanie McMahon et Triple H, donc ça serait peut-être cette logique-là. Ou alors, un clin d'œil complètement détourné Zarbi à la TNA, puisque Samoa Joe et Kurt Angle faisaient partie d'une même équipe, du même stable. À l'époque, la Main Event Mafia, la mafia du Main Event, ceux qui squattent donc les Main Event des shows. Et donc, ils en étaient parfait tous les deux. Je pense pas que ça soit ça la référence, mais ça reste rigolo à souligner. Okay. Bref, on verra ce qu'il en est. Donc, on aura plus tard un match avec les trois adversaires de Brock Lesnar. Mais en tout cas, on enregistre le fait que s'il perd, il quitte la WWE.
Et oui, c'est quand même une grosse info.
Plutôt pas mal. On passe ensuite avec les champions par équipe. Donc, la division par équipe, pardon. Donc, on a un match entre les Hardy Boys et donc le club. Carl Anderson et Luke Gallows, puisque donc ça fait quelques semaines qu'ils sont plus ou moins en adversaire les uns les autres avec ceux qui sont revenus, les Revival. Et donc on a un match entre les quatre avec les Revival aux commentaires qui ne boutent pas leur plaisir à descendre leurs adversaires les uns après les autres. Et donc ce qui se passe, et bien tout simplement c'était à la fin, on va pas refaire le match, hein, qui était assez court. Finalement, il y a sur la fin un Magic Killer qui va partir du club, mais Jeff Hardy sauve son frère. Gallows lui met un Big Boot. Matt qui fait un Twist of Fate, qui fait le tag à Jeff. Jeff qui fait sa Swanton Bomb. Et donc les Hardy Boys gagnent. Avec bien sûr à la fin, ils célèbrent les deux frangins sur la rampe près de la table des commentateurs, où il y a justement les Revival, Revival qui commence à se lever, enlever les micros pour tabasser la Team Extreme, et ça finit en gros bordel forcément, où à la fin il y a un twist of fate sur Dawson, il y a une poterie motion au milieu de nowhere sur Cal Anderson, et la moitié du Revival à la fin, les Hardy qui sont là, qui sont forts face à leurs deux adversaires, ils... Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette, ce remix un peu dans la carte de Tag Team d'Euro, qui était en souffrance il y a longtemps
Bah, j'approuve. Je maintiens mon commentaire de la semaine dernière fait avec Hank, à savoir que j'aime assez finalement cette sorte d'émulation positive qu'ils essayent de développer dans la scène Tag Team. Les champions sont pour le moment... tranquille ou intouchable, ou en tout cas ils ont fait place nette chez les challengers. Donc du coup, bah, les challengers sont un petit peu en train de se tirer la bourre tous pour savoir qui est la tag team dominante qui va pouvoir repartir à la conquête du titre. Je trouve que ça met bien en valeur la scène tag team de manière générale. On voit que bah, y a une belle compétition, il y a une compétition saine avec trois belles équipes qui du coup se prennent un petit peu l'avantage chacun à leur tour chaque semaine. Les Hardys avaient besoin de cette victoire, je pense, dans un match, comme tu l'as dit, somme toute classique, un bon match de weekly, on va dire. Donc j'ai bien aimé ces petits échanges, encore une fois, la brawl de fin, le petit bordel. On essaye de les mettre un petit peu tous sur un pied d'égalité. Et du coup, la course à savoir qui va être le challenger numéro 1 est plutôt intéressante. Donc ça me va. Pas non plus transcendé, mais ça me va. Ouais.
Oui, c'est clair que par rapport à l'état, hein, qu'on disait de la division Tag Team Arrow, il y a quelques semaines, où il y avait finalement les Hardys contre Cesaro et Sheamus pour le titre, et il n'y avait pas grand-chose, il y avait un gros vide. Là, ça va un peu mieux avec le retour de Revival, hein, qui revient de blessure, et avec du coup, peut-être en profite le club qui ont eu un match, justement, contre les Revival, qui avait été interrompu il n'y a pas longtemps, hein, par les Hardys. Moi, c'est clair qu'à titre personnel, voir un match, un long match, un bon match, Revival versus le club, je trouve que ça pourrait être pas mal. Et là, il semble vouloir faire quelque chose avec ces trois équipes, sans forcément les mettre de suite l'une des trois face au champion titre. Et je trouve ça intelligent, puisque si on récapitule, Revival, l'une des meilleures équipes d'NXT, hein, toute période confondue. Matt Hardy et Jeff Hardy, une vieille équipe de la WWE, mais qui a aussi, il n'y a pas longtemps, brillé à la mort lors de la TNA et aussi un peu à l'extérieur sur les fédérations indépendantes. Et le club, même si depuis le début la WWE ça marche pas, c'est quand même une des plus grosses équipes tactiques au Japon, New Japan. Donc c'est vrai que là on a trois équipes qui sont super solides, qui ont une réputation intra-WWE, extra-WWE, Amérique mais aussi worldwide. S'ils arrivent à construire quelque chose d'un peu intéressant, il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool. Donc
je suis d'accord.
Là je croise les doigts, même si je doute encore, je suis toujours sceptique de la véritable forme physique de Matt Hardy.
Je trouve toujours bon, il fait le taf, on va dire, mais c'est vrai que c'est un peu mou, quoi.
Heureusement qu'il y a Jeff, hein.
Ouais, voilà, heureusement qu'il y a Jeff. qui tient encore bien le niveau, quoi. Ouais.
C'est clair. Donc suite à ça, nous passons à un segment, et non pas deux, mais un segment des cruisers, hein, donc assez packs, puisqu'on a effectivement beaucoup de monde, on en a 6 pour le coup de 2. Donc on a dans un coin du ring Akira Tozawa, Cedric Alexander et Rich One pour les gentils face, et de l'autre Arya Daivari, TGP et Tony Nice. Donc les gentils contre les méchants, un match assez court, mais forcément, comme souvent les cruisers, très athlétique, avec notamment Cedric Alexander qui nous démontre qu'il a les capacités physiques de faire des trucs incroyables, mais juste qu'il n'a pas de charisme. C'est bien le problème.
C'est ça, c'est le problème.
Ouais. Rich Swan qui lui aussi fait une belle démonstration, alors que Tony Nice fait juste que montrer ses gros biscottos et ses muscles. À part ça, pas grand chose. Akira Tozawa est forcément plus mis en avant, sa blessure à l'épaule récente dans un match avec Daivari. Il aura d'ailleurs un match le lendemain contre Daivari, contre ce même-là qu'il a blessé.
C'est
pour
ça.
Savoir qui affrontera le roi Neville, donc lors du prochain défense de titre de Kid Cruiserweights. Et donc, sur la fin, c'est assez logique que ce soit effectivement Akira Tozawa qui fasse tomber avec son saut Swanton Bomb, donc du poteau, avec l'aide bien sûr derrière de Titus Worldwide qui ne ment pas de prendre un selfie avec les trois vainqueurs à la fin de la soirée. Donc je sais que la semaine dernière tu disais que tu aimais bien ce côté angle manager de Titus O'Neil par rapport à Akira Tozawa. Est-ce que là, encore une semaine après, t'es toujours toujours ça sympa?
Ouais, je trouve ça sympa. Après, Après, je suis toujours un petit peu déçu de ce que ça donne au niveau de l'intérêt du public qui était encore ultra ultra mort. Et puis même moi, j'ai pas spécialement pris beaucoup de plaisir. Ce match était très sympa. Ils se sont donnés. On peut pas leur reprocher de pas se donner à chaque fois quand ils sont dans le ring. Hein, tous les cruiserweight. Voilà, c'était un 3v3. Ils sont allés à fond. On a vu des moves encore une fois très sympas. Le finish était top. Mais en fait, c'est marrant, la façon dont tu as résumé un petit peu ce match démontre aussi l'absence totale d'écriture qu'il peut y avoir ou de personnages qu'ils ont. Parce que voilà, tu l'as dit, Tony Nice, c'est une petite montagne de muscles. Tozawa, il est gentil, mais il crie, il fait ah ah comme ça. Mais bon, à part ça, on ne sait pas ce qu'il fait. TJP est tombé aux oubliettes totales. Cédric Alexander n'a en effet pas de charisme. Enfin, on a même oublié Rich Swann, qui était peut-être le plus proche de la bande à un moment de vraiment percer en termes d'overitude pour faire un gros barbarisme vis-à-vis du public. Écoute, je sais pas, il y avait un moment où...
là encore il y a un joli spot où il y a Cédric Alexander, Rich Swann qui effectivement font à l'extérieur avec des screws 54 dans tous les sens avec
et Tozawa derrière qui fait un suicide dive. Magnifique ce qu'ils font,
le spectacle est là, c'est vraiment
en fait le spectacle est là, mais
c'est du salto. C'est vraiment l'acrobatie.
Ouais, c'est du flip, quoi. C'est du flip, quoi.
Mais revival, no flip just fist, c'est que du flip et pas de coup de poing. Et ça monte l'intensité.
Du coup, c'était très sympa, mais en même temps, c'était très sympa, mais j'ai quasiment oublié le truc aussi vite que c'est arrivé, quoi. Et après, le manager... Titus O'Neil, de toute façon, c'est la meilleure utilisation qu'on peut faire de lui, parce qu'il faut il faut pas le mettre dans le ring. Donc, il me fait marrer. Il me fait marrer à essayer de s'auto... s'auto-vendre par l'intermédiaire des catcheurs qui managent et essayer de toujours de prendre de crever l'écran même quand c'est pas lui le centre de l'attention. Je trouve qu'il est assez marrant dans son personnage comme ça, donc mange pas de pain, mais c'est pas ça qui va les faire remonter non plus vers les sommets, quoi.
Ah, ça c'est clair que c'est quand ils font leur saut qu'ils sont au plus haut, mais au niveau de la carte c'est promis à rester là. Mais bon, maintenant on le sait, je pense qu'on a fait le deuil de cette promesse Division Cruiser,
ce concept,
de ce concept, en espérant que les femmes qui s'affronteront lors du Millennium Classic, le tournoi féminin cet été, ne connaîtront pas la même destinée que eux, même s'ils nous offrent quand même du beau spectacle toutes les semaines sur l'interview. Mais bon, ça manque toujours de scénarisation. Un qui ne manque pas de scénarisation, ni de bagou, ni de crever l'écran, c'est le Miz et son Mistourage et Maryse qui débarquent donc pour leur épisode de Miss TV qui nous avait été annoncé par Kurt Angle, puisque c'est son fils illégitime, Jason Jordan, qui ce soir a l'immense honneur de s'asseoir sur le tabouret du Miz. Le Miz qui rappelle effectivement que, histoire de bien mettre la hit, que quand même cette ville c'est une ville de merde. Bonne cheap hit, mais qui fait du bien.
C'est important.
Donc Jason Jordan qui arrive avec une nouvelle musique, il a laissé tomber la musique d'American Alpha, et il a une musique, comment dire... assez
bizarre.
Assez naze.
Assez naze, on va y aller.
J'ai un mot, c'est naze.
Ouais, pas terrible.
Il y avait Bicas qui avait une musique pourrie quelques semaines, Jason Jordan c'est pareil, quoi. C'est
Big Naz,
quoi. Avec son nom écrit en 198 sur le titantron avec un skin drapeau américain. Donc donc passer cette musique pourrie, ce que dit le Miz à Jason Jordan, c'est que ça y est, c'est le fils illégitime qui a été reconnu par Kurt Angle, qui va avoir comme ça des opportunités, qui va pouvoir demander à son père tel title shot, etc. Mais bon, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire son trou à Raw et à la WWE. Et donc le Miz, tel la grandeur d'âme qui le caractérise régulièrement, lui offre une opportunité de ne pas simplement rester dans les jupons entre guillemets de papa, du moins les collants olympiens de papa, mais plutôt de venir garnir son mistourage, et le Miz sera faire décoller sa carrière. Évidemment, Jason Jordan, en tant que bon fils de son père, n'est pas d'accord. Dit que, en gros, il n'aura pas besoin de demander à papouner des passe-droits. Il fera ça à la réglo. Il méritera cette title shot. Il méritera chacune des opportunités que feront sa carrière. Et il ponctue tout ça d'un gros slam qu'il fait au Miz sur le Mistourage avant de partir triomphant. Et sur sa musique bien naze. Donc je sais que la semaine dernière, vu la performance de Jason Jordan dans le ring, qui était très sauvage contre Kurt Hawkins, vous vous demandiez avec Hank, est-ce qu'on ne vous la ferait pas à l'envers, et est-ce que Jason Jordan, ce serait pas un heel qui s'ignore ou qu'on ignore? Mais là, clairement, après ce segment où il a fait le gentil valeureux, je mériterai chacun
Ouais.
des combats qui. Voilà.
Raté.
Ouais. C'était une bonne idée pourtant, hein,
Raté.
mais non.
Ouais, écoute, c'était pas mal, on y croyait. Non, raté. Ce sera donc un faceplat robotique. Ok, bon, bah écoute, d'accord. Au-delà de ça, j'ai plutôt bien aimé le segment. Bon, en grande partie, voire à 99,9%, grâce aux mises, hein, qui a été très bon. Donc c'est vrai que quand tu imagines une feud un peu entre les deux, bon, c'est sûr, le mise écrase un petit peu. Ah merde, j'ai disparu là, non? Le Miz écrase un petit peu la feu de son charisme, de son bagou, c'est évident. Après, j'ai pas trouvé qu'on ait donné des trop mauvaises punchlines à Jason Jordan, donc du coup, ça passait. Clairement, faudra pas non plus lui donner trop trop le micro dans cette rivalité-là. Au-delà de ça, écoute, c'était pas mal, la dynamique entre les deux, le côté. Bon, c'est vrai que tu l'as dit, c'est un peu cliché, hein. Je vais mériter tout ce que je vais gagner. Mais bon, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas trop mal, le coup du Miz qui commence à être un peu à lui passer under his skin, là. Mais je sais pas comment tu vas dire ça en français. Mais bon, du coup, à le titiller un peu avec son père,
Oui,
à
elle s'est
critiquer son père, à lui dire,
énervée,
voilà,
c'est sous la peau.
l'énerver.
Oui, parce que le Miz dit oui, la WWE va te mâcher, va te recracher comme il
C'est
a fait Kurt
ça.
Angle, et tu finiras blessé. Kurt Angle a perdu les meilleures années de sa carrière
Ouais.
après mauvaise décision sur mauvaise décision, aka quitter la WWE et la TNA. Donc voilà quoi, c'est ouais, le Miz il y
Ouais,
va,
donc
il
du
franchit
coup,
encore un peu comme il avait fait avec Daniel Bryan à Talking
c'est
Smack.
ça.
Un peu ce mur, hein, ce quatrième mur, là, le mur de la réalité où on va parler des histoires un peu sordides de Kurt Angle après son départ de la WWE, sans forcément faire étalage non plus en place publique, mais il y va à fond, quoi.
Ouais, c'est
Ça, c'est
marrant.
clair.
Est-ce que, ouais, en toile de fond, c'est vrai qu'on a un petit peu la copie carbone de la feud avec Daniel Bryan qui essaye de remettre en place avec Kurt Angle à Raw, d'une certaine manière, avec cette tension qu'il peut y avoir entre les deux. Mais bon, écoute, j'ai trouvé que ça marchait pas trop trop mal. Après, au-delà de ce segment, j'ai peu d'espoir quand même dans cette rivalité, juste parce que c'est vrai que Jason Jordan, j'ai du mal à me projeter sur un face vraiment éclatant ou que tu as envie de suivre. Donc du coup, je
Ah,
suis un peu sceptique.
il y a du
Ouais, il y a
chemin à
du
faire, c'est
chemin.
sûr. Dans le
Voilà.
ring, il est pas mal, il est
Ouais.
impressionnant, il a du dynamisme, il explose quand il enlève effectivement son espèce de grenouillère et qu'il fait sa
C'est
tête de débile.
ça.
Bon, le public est derrière et c'est vrai qu'il a une bonne
À
capacité
voir.
physique à enchaîner les suplexes. Maintenant, c'est vrai que le micro, c'est pas encore ça.
Non, un peu
La
rapide
musique,
peut-être.
Voilà, c'est vrai que là,
Un
niveau
peu.
promo, il va être écrasé par le Miz dans la réalité. Mais bon, on sait que le Miz arrive bien par justement ce côté d'aller presque en dessous, de frapper en dessous la ceinture, d'aller frapper sur des
Oui.
choses qui sont presque vraies. Il a cette capacité à faire qu'un face en face de lui soit encore plus encouragé par le public parce que le Miz est
Oui,
vraiment très efficace en tant qu'heel.
exactement.
Donc,
Il fait bien le
ouais.
contrepoids au micro, et comme tu dis, le fait qu'il soit tellement over du point de vue côté sombre de la force fait que, en fait, par effet de balancier un petit peu,
Il
ça
finira.
renvoie un petit peu de ça renvoie un petit peu de hurrah vers le
Ouais.
gentil. Bon, voilà, peut-être un peu rapide cette feud pour le titre intercontinental quand
Oui,
même pour Jason
oui.
Jordan, mais
C'est un peu
écoute,
catapulté. Justement,
à
quand on dit
voir.
t'auras pas d'opportunité de départ ton père, bon bah de suite, la première feud qui se dessine, c'est peut-être potentiellement pour un titre, même si il y a quand même le Mistourage, peut-être qu'on aura Jason Jordan qui va
Peut-être, il y aura
se
peut-être
battre
une.
contre Curtis
Voilà.
Axel, contre Bo Dallas. Enfin, il y a du programme à construire là-dessus, mais c'est vrai que si ça aboutit tout ça à un titre, enfin un match pour le titre à SummerSlam, ce
Ça
serait
fait très rapide quand même.
Un peu précoce pour le fils retrouvé et assumé de notre GM manager.
C'est
On
ça.
verra bien. Ensuite, nous retrouvons deux personnes qui, la semaine dernière, avaient fait se réjouir de par le fait qu'ils soient dans le ring. Beaucoup de gens de nostalgiques d'il y a quelques années. On parle bien sûr des ex-frères, des ex-frangins du Shield, Dean Ambrose et Seth Rollins. Qui donc la semaine dernière pour Memo hein, était en proie et du Miz et du Mistourage, du Du coup, ils ont gagné la semaine dernière et on les retrouve dans l'interview avec donc effectivement Renée Young, hein, la copine Dean Ambrose qui interview Dean Ambrose. Donc voilà, on revoit effectivement ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc Dean Ambrose dit en gros, c'était un peu comme les vieux temps, c'était sympa, mais bon voilà, ça veut pas dire forcément qu'on se remet ensemble. Là forcément arrive Seth freaking Rollins, Burning Down Man, qui dit que voilà, c'était spécial, c'était comme si rien n'avait changé. Et c'est très étrange, on a un dialogue où on enlève le contexte, on enlève ces Dean Ambrose et Seth Rollins, on pourrait presque avoir ce même dialogue entre un couple qui s'est séparé et qui se retrouve après des années et qui recouche ensemble une fois, quoi. Et
c'est y en a ça, qui exactement.
Fait, ouais, c'était cool d'une fois, mais non, mais ça veut pas dire qu'on se remet ensemble. Puis l'autre qui fait, non, mais quand même, hein, c'était vachement bien, ça m'a rappelé des souvenirs, etc. Et il y a même Corey Grace plus tard qu'on reparle et qui fait un peu cette analogie-là, et c'est flagrant sur ce segment. Donc voilà, donc c'est Rollins qui veut refaire la paire avec Dean Ambrose. Dean Ambrose qui est toujours sceptique. Dean Ambrose qui dit qu'il a été brûlé une fois et que ça n'arrivera pas à nouveau. Référence au nouveau t-shirt de Seth Rollins, Burn It Down. Donc voilà. Plus tard, backstage, on a Seth Rollins qui marche un peu déçu parce qu'il s'est fait prendre un râteau par Dean Ambrose. Dean Ambrose qui veut
un petit peu, c'est
pas
ça.
Se remettre avec lui. Et là, il tombe sur Sheamus et Cesaro qui eux sont là et font hey, c'est marrant, tu sais quoi ? Nous, avec Sheamus et Cesaro, on a exactement l'inverse de vous. On a commencé, on pouvait pas se tiffrer. On s'est foutu sur la gueule pendant 7 matchs et finalement, on s'est fait confiance et on est champion. Alors que toi, c'est exactement l'inverse. Tu pourrais même pas faire un épisode de Ride Along, alors c'est un show sur Network, où il y a deux catcheurs dans une bagnole entre une ville A et une ville B, et ils sont filmés par le cockpit et ils discutent, ils font des blagues. Donc voilà, ils disent à Seth Rollins qu'il est tellement solitaire qu'il ne pourra pas faire un épisode de Ride Along, mais qu'il préfère un épisode de Ride Alone, donc faire le trajet seul. Et donc Seth Rollins forcément est énervé, dit « Ok, si c'est ça, je vous défie, n'importe lequel d'entre vous, ce soir, je le prends et je le fume dans un match. » Et c'est l'Irlandais Sheamus qui se propose. Donc du coup, on a plus tard dans la soirée un match, Seth Rollins contre Sheamus, que je propose de commenter dans la foulée. Un match qui était, j'ai trouvé, assez sympa. Il y a eu des séquences vraiment intéressantes entre le côté vraiment brutal de Sheamus et le côté ultra dynamique et très, très impressionnant, acrobatique de Seth Rollins. Il y a eu à un moment donné Sheamus qui a fait un avalanche Finlay Roll sur Seth Rollins, qui était vraiment impressionnant, point compte de deux. Il y avait un STO, un reverse STO dans le coin qui était aussi très 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 violent. Au final, tout ça va nous amener en fait Sheamus qui veut faire un white noise sur Seth Rollins après une intervention loupée de Cesaro puisque Rollins était aware, et Seth Rollins qui fait un folding press pour effectivement remporter la victoire. Victoire clean, mais bien sûr, les champions par équipe, eux qui ne sont pas clean, hein, The Bar, décident de passer à tabac Seth Rollins. Donc le public commence à gueuler « Nous voulons Ambrose, nous voulons Ambrose ». Ambrose qui ne vient pas. Les champions par équipe qui laissent Seth Rollins par terre, puis finalement qui y retournent. Et là, forcément, Dean Ambrose revient. Mais ça ne suffira pas, hein. Les champions par équipe à coup de bro kick et autres European Hypercute vont laisser les anciens comparses du Shield rincer sur le tapis du ring. Et plus tard encore, on retrouvera Ambrose et Rollins dans les vestiaires en train de soigner un peu, lécher leurs blessures comme on dit. Rollins qui va remercier Ambrose de l'avoir sauvé, Ambrose qui lui fait un peu ce que lui avait dit Rollins avant, hein. Genre écoute, la prochaine fois que tu fais choisis un combat, prends un que tu peux gagner. De toute façon, t'as fait ça uniquement, c'est un calcul, monsieur l'architecte. T'as fait ça pour m'obliger à venir, parce que si j'étais pas venu t'aider, je serais passé pour le mauvais gars. Donc t'es gentil, la prochaine fois, tu me laisses en dehors de tout ça. Et donc Ambrose qui se casse en laissant Rollins tout aussi penaud. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette espèce de bromance revival raté entre Ambrose et Rollins? Est-ce que tu veux les revoir ensemble ou est-ce que tu veux les revoir en solitaire?
Écoute, j'espère les revoir ensemble. J'ai trouvé ça très bien. Ça a pris beaucoup de temps dans l'émission. C'est vrai que c'était un peu le fil rouge de cet épisode. Donc c'était vraiment le point, c'était un des points focaux, hein, de l'émission. C'était très sympa. En tout cas, moi j'aime bien parce que ça va un petit peu dans le sens de ce que j'aimerais qu'il se passe, comme on avait un peu expliqué la semaine dernière. C'est finalement je t'aime moi non plus, je te cours un peu après, Seth Rollins qui vraiment ouais, qui court un peu après son ancien amoureux, quoi. Ouais, ouais. Comme tu dis, Dean Ambrose. Et je trouve que c'est, en fait, je trouve que c'est vraiment drôle que ça vienne de lui. Enfin, je trouve que l'histoire est plutôt bien écrite. Il y a plein de petites pointes d'ironie. Il y a plein de paradoxes un peu dans le fait que ce soit le traître qui finalement reviennent vers ses anciens amours, et puis j'aime bien la situation dans laquelle ils sont tous les deux. Ils tournent un petit peu en rond, donc du coup qui se retrouvent à ce moment-là, c'est à la fois un heureux hasard et en même temps c'est intéressant. Donc je trouve que c'est pas mal foutu. Ambrose se laisse pas faire aussi facilement que ça, donc il résiste quand même pas mal. J'ai bien aimé le petit clin d'œil dont tu parles à la fin, quand Ambrose explique t'avais tout calculé, tu voulais que je vienne parce que tu savais que t'allais te faire défoncer, donc tu savais que du coup j'allais devoir intervenir et que sinon j'allais passer pour un connard. Et ça me fait penser un petit peu, je trouvais que c'était limite un petit clin d'œil, ça me faisait penser à toutes les fois où on disait toujours que Roman Reigns, lui, était vraiment un enfoiré, parce qu'à chaque fois que ses potes se faisaient défoncer, lui...
J'aime entendre Giscard dire que Roman Reigns est un enfoiré. C'est
non, justement, moi je trouve pas que ce soit un enfoiré, parce que du coup...
Tu l'as dit, c'est enregistré.
Ambrose l'a très bien expliqué, ils font chier, les gentils, à toujours se mettre dans des situations où t'es obligé de venir les sauver. Bon bah du coup... Ambrose était obligé de venir.
C'est un peu ce qu'a fait Ambrose contre le Miz et Mistourage la semaine dernière, il y a deux semaines, et c'est pour ça que.
Ouais, tout à fait. C'était de bonne guerre, hein, c'est pour ça. Donc c'est assez drôle, et je maintiens toujours ce pronostic un petit peu de booking. Enfin, en tout cas, ce pronostic, c'est ce que j'aimerais bien voir, c'est qu'au final, ils se remettent un petit peu ensemble sous couvert de. Écoute, ouais, c'est vrai que c'était cool, et puis en même temps. Là, les champions, ils nous font chier. Bon, voilà, on sent qu'il y a quand même un title shot en toile de fond, ouais. et qu'ils pourraient se dire, c'est vrai que voilà, on n'a pas grand chose. Bon, en ce moment, tous les deux, on n'a pas grand chose à faire. Ça fonctionne bien, pourquoi pas. Et je trouve que ce serait original de l'avouer, en fait. Voilà, ouais, on est un peu dans un trou en ce moment. Et puis qu'après, in fine, la trahison vienne d'Ambrose et que ce soit lui qui fasse son heel turn de cette façon-là, ce serait sympa, okay. Je trouve. Donc voilà, moi pour l'instant j'aime bien, je trouve
Fantasy
ça agréable.
Fantasy Booking, ils sont mettent ensemble, ouais. Gagnent les titres, et puis quand ils les perdent, Ambrose qui backstab, c'est trop lisse.
Coup de chaise dans le dos.
Je te le devais depuis 3 ans celui-là. Je suis assez d'accord sur une bonne partie de ton avis sur ça. Hein. C'est clair que les deux, Ambrose, il faut le sortir de la dynamique champion intercontinental contre le Miz, parce que ça fait des mois à SmackDown, on a déjà vu aussi à Raw.
Ouais, c'est fini. Bon.
Passons à autre chose. Rollins Wyatt, c'était une catastrophe. Clairement, il n'est pas dans le title shot pour Universal Title, donc il faut lui faire quelque chose. Donc les deux n'ont rien à faire, autant les remettre ensemble, un peu teaser cette fibre de Shield, et surtout donner du grain à moudre aux champions par équipe pour donner du temps aux trois équipes dont on a discuté plus tôt de vraiment faire un truc intéressant entre Club, Revival et Team Extreme. Et du coup, qu'émerge une fois le truc avec le Shield fini, un vrai contender de ces trois-là qui soit vraiment ultra crédible, quoi. Donc, c'est vraiment c'est malin de faire ça. Après, faut voir comment ils vont le gérer avec le temps. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien la direction que ça prend. Et puis, les petites scènes, effectivement, entre Rollins et Ambrose sont plutôt cool.
Surtout ils jouent bien, tu sens vraiment... qu'il y a une alchimie, quoi.
Ouais, ouais, vraiment, c'est le dialogue, réécoutez-le si vous l'avez déjà écouté ou écouté.
Ouais, c'est assez drôle.
Mais c'est vraiment, on dirait, un vieux couple qui essaie de recoller les morceaux, quoi. C'est très très bon. On passe à autre chose qui est peut-être moins bon, ou du moins on est sceptique, on verra bien ensuite, hein, mais c'est un peu caractéristique de ce personnage-là, de ce lutteur-là, puisqu'on va parler de Bray Wyatt. Comme on le disait, c'est terminé avec les Rollins, on arrête les frais, donc on va essayer de faire un truc avec peut-être le lutteur face qui a la gimmick la plus compatible avec la sienne, hein, donc Finn Balor. Puisqu'entre le mangeur de monde et le prince démon, peut-être qu'il y a un truc à faire. Donc Bray Wyatt nous part dans le milieu du ring, nous parle comme d'habitude, dit qu'il n'y a pas d'échappatoire, pas pour nous, pas pour nos enfants, et pas pour Finn Balor. Aucun homme mortel peut échapper les ténèbres, c'est comme ça que c'est, et puis c'est tout. On est tous tenus par notre ténèbre intérieure en tant qu'humain, à essayer de faire ce qu'on peut, blablabla. Bref, du Bray Wyatt classique. Regardez promo cryptique Bray Wyatt sur YouTube, n'importe laquelle, ça sera à peu près la même.
Hein. Ce sera à peu près la même, ouais.
Ouais, donc voilà, il est Bray Wyatt, il est partout, et Finn Balor peut rien faire, etc. Jusque on entende le début de la musique de Finn Balor, mais juste quelques instants, et là Finn Balor apparaît dans le ring, donc il nous fait une Wyatt hein, finalement, ou une Undertaker avant. Hein. Donc Finn Balor est de dos par rapport à Wyatt, il est dans sa veste, en train de faire son signe comme ça, où il harangue la foule. Bray Wyatt se retourne, rigole, s'approche de Finn Balor, et Finn Balor lui fait un payday kick de toute beauté comme il sait faire. Et donc, suite à ça, le mangeur de monde, le dieu, va se faire rosser par Finn Balor, qui reprend un peu donc effectivement l'offensive et l'agression sur cette rivalité. Finn qui finit donc plus ou moins victorieux suite à ce segment avec la foule qui l'harangue. Concrètement, est-ce que justement du fait que la gimmick de Finn Balor peut être compatible avec la dimension occulte, ténèbres, divine, maléfique de Bray Wyatt, est-ce que c'est enfin la rivalité qui va donner à Bray Wyatt ce qu'il mérite ?
Écoute, je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que cette rivalité soit beaucoup plus intéressante que les autres parce que a priori on repart dans un schéma assez classique. Peut-être qu'en effet on aura un match entre les deux qui sera assez fun parce que, bah oui, l'opposition de si jamais Finn Balor vient en démon, ce qui semble être la direction qu'ils prennent, hein, parce que c'était pas son theme song habituel, hein, c'était le début de son theme song spécial qui sort pour les pay-per-view en démon là avec les battements de cœur et la petite lumière rouge. Pour annoncer sa venue, ce qui était assez badass, ce qui était pas mal. Donc oui, en effet, on se dirige vraiment. Voilà, ils veulent profiter du fait d'opposer, Finn Balor en version démon à Bray Wyatt. Je pense que ça ira pas vraiment au-delà de ça en termes d'intérêt pur, parce que Bray Wyatt a ressorti sa promo classique. Enfin, ouais, c'est vrai que ces rivalités se ressemblent un petit peu toutes. Donc, écoute, à voir s'ils arrivent à faire quelque chose qui vraiment sort de l'ordinaire. Je corrigerai mon jugement, on va dire. Je reverrai mon jugement. Mais pour le moment, je pense pas que ça va m'intéresser outre mesure. Par contre, j'ai trouvé que le segment de ce lundi était vraiment très sympa. Enfin, outre la promo, on fait abstraction de ce qu'il a dit. J'ai trouvé que le coup du justement là l'apparition en téléportation avec les petits battements de cœur là, parce que tout le monde avait reconnu, on a entendu le tout tout comme ça là, et on s'est dit ah putain il arrive et tout, et le voir arriver tourner le dos en mode un peu vas-y frappe-moi et le voir prendre l'avantage, et c'était très voilà, la mise en scène était assez badass et j'ai trouvé ça très sympa. Donc bon, voilà, ils ont gagné un joker sur cet épisode. Mais à voir ce qu'ils vont faire sur le site.
Ouais, c'est clair que je sais pas pourquoi d'ailleurs ils avaient abandonné la gimmick Demon, hein, donc Finn Balor qui arrivait effectivement tout maquillé avec ses dreadlocks, etc. Ils l'ont laissé tomber depuis son retour de blessure finalement. Je pense qu'ils avaient peut-être essayé de faire un peu comme ils avaient vu qu'avec Bray Wyatt ce genre de gimmick ne marche plus en 2017. Peut-être qu'ils se sont dit tiens, on va épurer le personnage de Finn Balor de cette dimension là et voir. Je pense qu'ils sont, ça a pas très bien marché pour Finn Balor depuis son retour, du moins le booking est pas très heureux avec lui, donc peut-être qu'ils se disent ok, pour un peu revamper le personnage, refaire émerger cette personnalité là de Finn Balor qui avait fait effectivement une partie de sa popularité, du
temps son succès
ouais. son succès peut-être effectivement le faire surgir au cœur d'une rivalité avec Bray Wyatt qui va toucher à cette dimension là occulte, c'est peut-être pas mal.
Donc ouais, je sais pas, moi je l'avais, je pense que c'est le but, plus, hein. Je l'avais plus vu parce que je pensais que c'était quelque chose qu'il voulait garder vraiment exceptionnel, donc du coup il l'utilisait très peu, mais ouais, peut-être aussi en effet, ouais.
Ouais, donc je pense que voilà, la finalité de ça c'est de refaire revenir cette gimmick là pour les gros matchs importants, pay-per-view, pour SummerSlam par exemple, surtout que SummerSlam on sait qu'ils mettent parfois du budget, hein, comme WrestleMania pour les entrées, et celle de Finn Balor, on l'avait déjà vu à NXT avec beaucoup moins de moyens qu'un gros pay-per-view, il faisait des trucs assez sensas, donc il y a moyen de faire ça, et je pense que c'est ce vers quoi on va. Après, catchesquement, Finn Balor, Bray Wyatt, moi ça me dit carrément, à voir.
Ouais, ça peut être
assez
sympa.
Assez violent tous les deux, chacun dans leur style, un style assez violent. Maintenant, voilà, faut que la sauce prenne. Hein. C'est toujours casse-gueule les rivalités, les histoires sur l'occulte. Il y a très peu qui arrivent à faire un bon résultat avec. Peut-être que ce sera la bonne foi pour Bray Wyatt. Et si parfois, si malgré tout ça, ça ne marche pas, je pense que c'est l'avenir sera compliqué pour lui. Hein.
Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est. En fait, c'est marrant parce que Bray Wyatt, c'est vrai que je peux pas dire qu'il m'intéresse des masses, mais il est en fait, son personnage semble rester constant dans la popularité, dans le sens où on a l'impression que quoi qu'il fasse, quel que soit son programme, les gens sont toujours contents quand même les gens sont toujours contents en live de le voir, avec
son
les
mantre,
lucioles.
Ouais, son intro est vraiment énorme. Et, ouais, t'as un peu ouais, en live, c'est il y a une atmosphère qui est folle. C'est un bon talker, hein, au micro il est bon.
Et c'est un très bon talker.
Et très critique, qui fait peu sens. Ouais. Mais non, il a les capacités en ring, il a le charisme, il a la musique qui va bien, il a le look, il a le personnage. Il y a tout, c'est juste qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de cohérent avec lui.
J'ai l'impression qu'il est toujours à une grosse rivalité vraiment marquante de vraiment exploser. Mmh. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il coulera jamais non plus complètement, parce que je trouve qu'ils ont quand même trouvé. Il a trouvé, parce que c'est lui qui incarne le personnage. Je trouve qu'il a réussi à trouver un personnage qui fait que je pense que ça restera un mec important dans les 5, 6, 7 prochaines années. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais passé le niveau qui fait que putain, c'est le main eventer que j'ai envie de voir.
Ouais, même quand il était champion de la WWE du côté de SmackDown, ça n'a pas pris. On verra bien ce que ça donne avec Finn Balor. En tout cas, je suis ravi de voir que Finn Balor a autre chose à faire que manger des coups de guitare dans la tête de d'Elias.
Ouais, qui n'est plus que Elias d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. Elias n'est plus qu'Elias. D'ailleurs, on peut en parler maintenant. Elias Samson n'est plus qu'Elias. Il commence son moment sur le ring, son petit concert du soir comme d'habitude, en disant qu'il s'appelle Elias, qu'il veut marcher avec Elias. Que voilà, cette ville Pittsburgh, il va chanter une chanson. C'est surtout les gens qui l'en ont inspiré. Dit en gros que les gens Pittsburgh sont tous des gros cons, des gros bofs. Qu'il regrette à chaque fois qu'il vient ici, et que c'est de pire en pire. Même s'il pense ça impossible, eh bien c'est toujours de plus en plus nul. Il est coupé par une musique que j'ai pas reconnue au début.
Ouais, moi non plus.
Voilà, on avait oublié. Et c'est qui? Kalisto qui vient faire des luchappings contre Elias Samson. Enfin, Elias, maintenant The Drifter, un match Kalisto, Out of Nowhere, qui fait des jolis trucs, hein. Il fait des jolis luchaffling, mais ça ne suffit pas face au gros coup de poing, au gros coup de pied de Elias, qui finit par donc drift away son Swinging Neckbreaker proprement, qui gagne 1-2-3, victoire du Drifter. Est-ce que tu as un avis, quelque chose à te dire sur ce segment?
Non, très joli crossroads de Elias. Et sinon, à part ça,
voilà.
Donc, non, à part ça, c'était
naze. Ouais. Après quelques semaines où il a touché au début un peu du Miz, un peu de Finn Balor, on disait oh, ils ont des gros plans pour Elias Samson. Ben non, ben maintenant, c'est Kalisto. Ah, peut-être qu'il va nous faire, ils vont nous recycler la storyline avec Braun Strowman où pendant plusieurs semaines Elias va balancer Kalisto dans les poubelles, dans les cuisines ou je ne sais où. Bref. On verra.
À voir. Ouais.
Je trouve pas ça très intéressant. Hein. Encore une fois, le mec dans le ring montre pas grand chose. Là encore, pour dire qu'il y a un truc, si. Par rapport aux autres fois, on a vu Elias Drifter dans un ring. Vu le gabarit de Kalisto, hein, taille réduite par rapport aux adversaires habituels, il a pu se permettre de faire pas mal de lever, etc.
De power moves.
Il a fait un peu plus de choses que d'habitude. C'était moins je te frappe dans un coin, c'est tout. Mais ça reste quand même très pauvre. Hein. Donc,
ouais, c'est
après,
pas
il sait jouer de la guitare.
Il fait des bons trucs.
Il a une
trucs.
Gueule, mais c'est chiant dans le ring. Hein. Pour l'instant,
ouais,
c'est très chiant.
Je suis pas désespéré pour lui. Je pense qu'il a, il a un gimmick qui peut marcher, qui peut agacer. Il a l'air de faire des bons petits trucs, mais bon, par contre, c'est clairement pas en lui filant des matchs random de milieu de carte contre Kalisto qu'on va faire en sorte que il nous intéresse, ça c'est sûr. Tellement que, à mon avis, je pense pas qu'on soit les seuls à même pas se souvenir de, enfin, en tout cas, d'à pas avoir reconnu la musique de Kalisto. Donc c'est quand tu le fais affronter un gars.
C'est qui ça? Mais
j'entends le truc de jeu vidéo là, et je sais qui c'est que ce truc. Et puis après, t'as un gros facepalm. Je dis putain, c'est Kalisto, merde. Et quand tu fais affronter un gars dont tu te souviens même plus de la musique, c'est pas bon signe de base pour l'intérêt du match.
D'ailleurs, Kalisto, petite question à la volée comme ça en deux secondes. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de laisser dans le main roster ou est-ce qu'il vaut pas mieux le rapatrier à 205 et dans la Cruiserweight Division? Parce que je pense qu'au niveau
de passe. Oui, je pense qu'il devrait plutôt être la Cruiserweight. Je sais même pas ce qu'il fait encore avec l'existence de cette division là. Il devrait plutôt aller faire des sauts sur trampoline là avec les autres le mardi soir là.
Bim. On voit que t'as SmackDown, toi. Hein. Tu défends Randy Orton qui dit no flips ou je sais pas quoi. Ça suffit les
Oui, exactement.
Voilà. Ouais, ouais. Parce que effectivement, casser la gueule à Kalisto, ça n'a réussi à personne, sauf un. Braun Strowman. Lui, justement. Parce qu'on vous l'avait dit, un triple threat. Et entre Braun Strowman, entre Roman Reigns, entre Samoa Joe, c'est un main event de fou, ça. Sauf que non. C'est pas le main event. C'était pas le main event, donc on aura eu un peu avant dans la soirée une vidéo package Roman Reigns qui, comme la semaine dernière, sort sa page Wikipédia en 2 minutes. Samoa Joe qui paraît, qui dit oui, je peux tuer la bête, Roman Reigns je le bats, je crains pas Braun Strowman, etc. Pendant 15 ans j'ai battu les plus grands. Et Braun Strowman.
C'était très bon ça.
Qui dit en gros, oui, de nos jours, les gens se cachent derrière leurs écrans, ou au mieux, ils ont une discussion assis l'un côté de l'autre. Moi non. Je suis Braun, je casse tout. Bref, voilà les trois qui font des interviews face cam un peu old school pour se vendre, tout ça pour aboutir au match, les trois. Un match assez violent, pas très long non plus. Peut-être que c'est pour ça que c'était pas le main event, je ne sais pas. En tous les cas, on aura vu toutes les configurations qu'on peut s'imaginer. Au début, Braun Strowman fait le ménage sur le ring et expulse Joe et Reigns à l'extérieur. On aura du Reigns et du Strowman à l'extérieur comme on l'a vu faire précédemment dans leurs différents affrontements. On aura vu Samoa Joe contre Roman Reigns qui lui met effectivement un Fujiwara armbar qui était de toute beauté avec Reigns qui fait une gueule. Comme ça au milieu du ring, d'ailleurs, ce sera la vignette de ce Raw.
Ah non!
Et si Reigns qui souffre de douleur de l'acteur studio, mec, incroyable! On dirait qu'on lui enfonce un tisonnier brûlant dans le pip! Mais non! Joe aussi qui croisera le fer contre le gros Braun Strowman. D'ailleurs, Joe qui lui fait une coquine à clutch hein, par-dessus la barricade. Tout ça nous amène à quoi? Parce qu'il faut le voir, ce match, il est quand même assez intéressant. Hein. Il y a vraiment des bonnes phases violentes. Au final, on a Braun Strowman qui a en main le bas de l'escalier en métal qu'il veut balancer sur le crâne de Roman Reigns. Mais bon, Roman Reigns, gros chien qu'il est, c'est son yard, c'est sa maison, c'est tout ce que vous voulez. Du coup, il fait un Superman punch, esquivant le coup et donc balançant Braun Strowman à l'extérieur, se retourne, voit Joe qui avance un peu pâteau, un peu groggy,
qui titube,
ouais. Un gros spear, et donc, clean, Roman Reigns wins, lol ou pas lol, Giscard, Roman Reigns qui wins.
Ah, je suis très content. D'ailleurs, moi, je pensais que tu allais choisir Roman Reigns triomphant le bras levé en vignette de l'épisode, qui m'aurait semblé beaucoup plus opportun et beaucoup plus vendeur.
Not on my watch.
Non, très bien, très très bien cette victoire de Roman Reigns, je suis très content. Il a une fois de plus été le plus fort au bon moment. Je trouve qu'il avait besoin de, il avait besoin de gagner ce match, donc c'est pas plus mal. Par contre, j'ai pas trouvé ce triple threat excellent.
Mais c'était cool. Pour un no main event de weekly, c'était très bien.
Oui, voilà, c'est ça. On va dire que, à mon avis, volontairement, ils en ont assez peu donné comme Michael Cole n'a cessé de le rappeler, il y avait 75% du main event de SummerSlam dans ce match. Donc, il fallait pas trop en donner. Malgré ça, malgré le fait que ce soit un weekly, que ce soit pas un main event, j'ai quand même trouvé ça un petit peu mou du genou. Des bons moments. J'ai beaucoup aimé moi la coquina clutch de Samoa Joe sur Braun Strowman un peu par-dessus la barricade et ouais. Tout et surtout la réaction du public en fait quand Samoa Joe met sa coquina clutch, parce que du coup le public était à fond et c'est assez révélateur du booking que peut avoir Joe depuis 3 mois et du move de cette coquina clutch, parce que c'est vrai que on y croit. Enfin, elle a été tellement bien vendue. D'ailleurs, en grande partie grâce à Brock Lesnar et la rivalité qu'ils ont eu ensemble, que du coup, c'est devenu un finisher vraiment très crédible qui fait réagir la foule et qui fait bien réagir la foule, ce qui est aujourd'hui de plus en plus rare sur des prises de soumission, je trouve. Voilà, j'avais apprécié ce moment-là du match. Sinon, tu l'as dit. Bon, voilà, c'était très violent. Ça m'a pas transcendé. J'ai pas trouvé ce match extra, mais bon, c'est très bien. Et par contre, j'étais très content évidemment de la victoire finale de Roman Reigns, qui du coup arrive avec un max.
Tu sais que c'est du reverse booking, ça veut dire qu'il gagnera pas le match.
Pas du tout. Ça veut dire qu'il est au sommet de sa forme et qu'il a toutes les chances de l'emporter.
Non, hors de question. Donc, on passe ensuite aux femmes, donc la division féminine, donc Alexa Bliss qui est en interview backstage, puisque la semaine dernière il y a eu un match entre Bayley et Sasha Banks, ces deux amies qui ont dû se déchirer pour voir celle qui aurait l'immense honneur de défier la championne à SummerSlam. Et c'est contre beaucoup d'attentes, hein, la mienne et ainsi que d'autres, donc camarades, Bayley qui a remporté la victoire. Donc Bliss qui est interviewée, en gros elle dit qu'elle est contente finalement que ce soit pas Sasha Banks, hein, parce qu'elle veut pas raffronter Sasha Banks. Il y a des gens qui disent que Alexa Bliss elle-même a fait le compte à l'extérieur volontairement contre Sasha Banks, sa grosse boule de feu, mais non, c'est faux, elle y a pensé mais c'est pas ça. Par contre Bayley, elle la maîtrise quoi, elle a battu plusieurs fois, elle a montré à Extreme Rules que elle avait pas de quoi être extrême ni de violente. Bref voilà, Bayley c'est fait ta peur. Et donc, Bayley d'ailleurs qui aura un match ce soir contre Nia Jax. Et donc, Alexa Bliss forcément est contente puisqu'elle compte bien sur le fait que Nia Jax explose Bayley. Donc, c'est le match qu'on a juste après. Donc, énième confrontation entre Bayley et Nia Jax. Rien de neuf dans ce match par rapport aux anciens. D'ailleurs, le public s'y trompe pas parce qu'il y a la bonne moitié du match où il y a un silence de mort. C'est ouais. Vraiment étonnant. Étonnant.
Le traitement, traitement cruiserweight.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Absolument étourdissant. Même Nia Jax qui fait un peu preuve d'originalité dans sa taunt, dans sa pique contre Bayley, puisqu'elle prend un élastique à cheveux et se refait la tresse sur le côté comme Bayley. C'est plutôt sympa, mais public.
Non, le public, ça n'avait rien à faire. Ouais.
Ah, complètement, on n'a rien à foutre. Tout ça nous arrive à la fin. Bah, finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a Alexa Bliss qui se pointe sur le ring pour taper Bayley. Bayley qui finalement réussit à s'en dépêtre. Nia Jax qui vient s'assurer que Alexa Bliss va bien. Et tout ça, qu'est-ce que ça nous fait? Eh bien, oui, il y a un hugger. Et donc finalement il y a un count out, voilà, Bayley gagne par count out, elle empêche Nia Jax de remonter en lui faisant un hugger sur les escaliers. Nia Jax est sonnée, Bayley dans le ring, au compte de 10, il n'y a personne au ring à part Bayley. Bayley qui gagne malgré l'intervention d'Alexa Bliss. Donc Bayley bookée très forte, hein, elle a battu Sasha Banks clean, là elle bat clean Nia Jax par count out, mais elle bat quand même,
ouais,
avec
clean.
En plus l'intervention d'Alexa Bliss. Voilà, c'est moi, je sais pas, je vois rien de nouveau dans le personnage de Bayley qui me fasse reprendre espoir ou intérêt pour Bayley dans la course au titre. Est-ce que toi, tu vois, toi qui es toujours positif, qui est la caution optimisme de Catch Up, est-ce que tu vois une lueur d'espoir, je dis s'il te plaît, pour ce match à SummerSlam qui, moi, me laisse froid, comme l'hiver.
Ouais. C'est vrai que c'est pas pour l'instant, c'est pas très bien vendu cette histoire. Et j'aurais du mal vraiment à expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça donne pas très très envie pour l'instant. Bliss Bayley, déjà d'une certaine manière ça donne pas envie, un petit peu à cause de Alexa Bliss qui nous fait une reverse mise où Paul Heyman a enterré son adversaire dans les grandes largeurs, ce qui du coup c'est vrai que tu l'écoutes, tu te dis bah ouais c'est vrai, elle l'a déjà battu trois fois, dont une fois Extreme Rules, pour démontrer. En fait, là, le méchant a complètement démontré son point. C'est-à-dire que Bayley n'a pas le killer instinct, l'instinct du tueur, elle n'a pas ce qu'il faut pour gagner les matchs. Je l'ai déjà battu trois fois, qu'est-ce qu'elle fout encore là? Ouais. Ouais, c'est vrai.
Oui, parce qu'en plus, là, ils nous vendent une blessure à l'épaule dans le match, hein, de Bayley qui serait blessée à l'épaule. Donc voilà, on se dit, ah, c'est peut-être ce qui va lui faire défaut. Mais non, elle gagne même malgré ça, malgré l'intervention de Alexa Bliss, malgré ça. Il la met très, très forte, alors qu'elle
s'est
sortir à Extreme Rules en 2 minutes 50. C'était...
Et le problème, c'est qu'il... Et puis en plus, à côté de ça, il continue de présenter Bayley comme... Alors oui, elle bat clean, mais c'est pas des victoires éclatantes. Enfin, elle a battu Sasha Banks sur un roll-up, voilà, sur un coup du sort un peu. Elle a profité de renverser le momentum de Sasha Banks sur son frog splash pour gagner. Là, elle gagne sur un décompte à l'extérieur. On a l'impression qu'elle s'en sort un petit peu et que, en fait, moi, là pour le coup, si je me dis je suis spectateur lambda, je me dis. Elle est un peu de retour sur le haut de l'affiche, mais un peu par hasard. Enfin, tu vois, un concours de circonstances. Tu vois, genre, écoute, tant mieux. Si tu es fan de Bayley, tant mieux, parce que du coup, tu te dis putain, yes, elle est là. Mais en même temps, t'es pas très confiant sur ses chances de victoire, quoi. Donc,
non.
Du coup, le, Ce qui fait que quand tu mets un petit peu toutes ces pièces bout à bout de booking, tu te retrouves face à une situation où bah, déjà le match Nia Jax contre Bayley bah, t'intéresse pas beaucoup parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et puis en plus, bon, bah, le personnage en ce moment n'est pas dépeint comme étant très intéressant. Et puis bah, à côté de ça, en plus, tu renforces avec le décompte à l'extérieur et tout le bordel. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça ne donne pas très, très envie, je trouve, pour le match, comme tu l'as dit. Est-ce que ça redonne espoir pour le personnage de Bayley? Pour Bayley, j'ai un peu le même constat que pour Bray Wyatt, dans le sens où, à mon avis, elle sera jamais perdue. Enfin, elle a le capital sympathie et la musique et les fans pour rester à flot quoi qu'il arrive. Donc, je suis pas trop inquiet, mais c'est vrai que je suis déçu parce qu'on pourrait faire tellement mieux avec Bayley, qui moi m'a enchanté quand elle est arrivée à Raw, parce que j'ai découvert la John Cena féminine, enfin la face ultime. Pour moi, c'était à chaque fois un rayon de soleil de l'avoir arrivée à chaque émission tous les lundis. Et là, c'est vrai que depuis quelques mois, bah ça me fait toujours plaisir de la voir tout ça, mais c'est plus pareil. Donc c'est vrai que je suis pas transcendé, non.
Ouais. Non, pareil, hein, j'étais très déçu de voir la transition entre Bayley NXT à Bayley Raw, puisqu'elle avait vraiment perdu sa superbe en termes de match, enfin d'in-ring et aussi de micro. Et je vois rien qui me fasse regarder l'affiche qu'on nous vend à SummerSlam pour le championnat féminin de Raw avec plaisir. Éventuellement, si dans les semaines, puisqu'il y a encore quelques semaines, hein,
on arrive
à une situation, à peut-être un triple threat avec une triple threat comme dirait Ringside avec Sasha Banks au milieu, et pourquoi pas le heel turn qu'on attend depuis un petit moment, ça pourrait mettre un peu de sel dans tout ça. Mais pour l'instant, ouais, Bliss, Bayley, sans stipulation, sans rien, ça me...
Non, c'est vrai, je suis d'accord. On l'a déjà vu, quoi, surtout, voilà. On l'a déjà vu pas mal de fois.
Et il y a rien de neuf, quoi. Donc même Alexa Bliss se dit dans sa promo, genre, bah moi ça m'a va que Bayley gagne,
mais
quoi.
Tu vois, c'est terrible,
quoi.
De
c'est
faire
easy,
dire
quoi.
Ça, ouais.
Et on ne peut pas dire, on dit ouais t'as raison meuf, t'as raison. Ouais. Donc ouais. Pas très sympa, pas très excitant, un peu comme le main event du soir. Et oui.
Oh là là.
Parce qu'on arrive derrière les derniers segments qui amèneront le main event, hein, puisque le main event c'est ce que nous a été annoncé en intro par le GM manager qu'on n'a pas vu, à savoir Big Show contre Big Cass. Donc avant ça, on a deux segments. Un où on voit Enzo Amore dans les vestiaires en train de parler au Big Show. Enzo qui remercie en gros Big Show d'être intervenu parce que c'était pas sa bataille, etc. Il est impliqué là-dedans par la faute d'Enzo. Et donc le Big Show, il a soutenu Enzo et ça compte pour Enzo. Big Show qui dit t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est une baston que je vais gagner. Big Cass, il a besoin d'apprendre du respect et moi je peux lui apprendre. Et plus tard, Big Cass qui est en interview, qui dit en gros, qui va prendre une leçon encore à Enzo, et du coup à Big Show, ça lui fait pas peur, parce que lui aussi, il est gros, il balance leurs chiffres, 7 foot tall dans tous les sens, bref, rien de très intéressant dans ces trucs backstage, comme dans le match, de mon avis, tu diras Giscard si tu penses l'inverse, un match qui démarre assez fort pour le Big Show, qui maîtrise donc son adversaire, qui reprend le dessus par une technique qu'on a vue 30 fois contre le Big Show, à savoir attaquer les jambes du Big Show, donc Big Cass qui passe
vraiment
à plomber les jambes du Big Show, hein, scier le tronc de l'arbre pour le faire tomber. Et ça ne suffira pas, puisqu'au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, il y a un mafia kick donc de la part donc du Big Cass, hein, son gros kick dans la bouche, et Enzo n'en peut plus et saute sur le dos littéralement de Big Cass qui était dans le coin et commence à le bastonner. Donc forcément, disqualification du gros chauve, et c'est Big Cass qui gagne. Donc Big Cass qui balance Enzo avec une grosse boute dans la bouche encore une fois. Chauve qui se retourne, qui se reprend ses esprits, qui lui balance effectivement un knockout punch pour le compte. Et voilà. Et donc on a Big Show qui soutient mollement Enzo pour partir et que Big Cass est encore dans le ring avec une nouvelle chanson d'ailleurs, hein. Big Cass, c'est
ouais,
ce truc
il a upgradé un petit peu, ouais.
Le seul truc qu'on a dans ce segment et ce match, c'est que Big Cass a un nouveau theme song, hein, qui aura tenu 2 semaines ou 3 semaines sa première chanson solo. Donc voilà, pour un truc un peu moins pire mais tout aussi générique, hein, faut l'avouer. Voilà, c'était du main event, ça, hein.
Ouais. Je suis navré hein, pour les résidents de, je suis pour les résidents de Raw. C'est vrai que ça doit pas être facile si c'est souvent comme ça.
C'est les gens de Pittsburgh qui devaient bien dégoûter par contre.
Ouais, les gens de Pittsburgh devaient être un peu vénères.
Pourquoi avoir foutu ce match-là en main event?
J'ai aucune idée. En fait, il y a rien à sauver. Tout était mauvais. Je pense que ouais, c'est. Dans le booking, c'était nul, aussi bien le finish que le match, que le positionnement dans la carte, que les implications pour l'histoire, tout était mauvais.
Promos, donc déjà... Même la promo de Enzo au début du match, il annonce, c'est lui qui fait rentrer il fait son choix habituel, il fait son blabla, etc. D'habitude, Enzo, il n'est pas mauvais en promo. Même là, j'ai trouvé qu'il était moins
mauvais. Même ça, c'était pas bon. Donc bon, déjà, ça n'a rien à faire en main event, c'est évident. Ouais. Surtout quand on a... Brock Lesnar dans le building et un triple threat entre Braun Strowman, Samoa Joe et Roman Reigns. Donc ça n'a rien à faire dans le main event, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le match est nul. Big Cass a catché comme un small cass, entre guillemets. Non, mais c'est surtout que moi j'avais de bon espoir dans ce match la semaine dernière parce que.
Ah ouais?
Non mais si, parce que je sais que Big Show est capable de faire des trucs sympas, il l'a montré par le passé avec Braun Strowman dans des batailles de Big Man, il est capable de faire des trucs sympas, et moi je voyais bien une baston de Golgoth pour montrer que Big Cass c'est pas juste un mec qui écrabouille des petits Enzo Amore, c'est aussi c'est une force de la nature et c'était l'occasion de montrer ça. Et non, il nous a fait un match de petit, attraper les jambes du Big Show, le maintenir au sol, il a catché comme l'aurait fait Rey Mysterio contre Big Show. Donc c'est déjà ça colle pas, ça va pas. Donc déjà ça fonctionne pas. Et puis après le coup de Big Show qui met KO Big Cass et qui finit triomphant devant. Ça non plus ils veulent mettre en place une rivalité entre les deux et ils nous donnent quasiment le payoff dès le premier match. C'est-à-dire Big Show a fait ravaler les dents de Big Cass dès le premier match. Qu'est-ce que vous voulez d'une certaine manière?
Il y a eu intervention quand même d'Enzo.
Certes,
mais
il y a eu intervention, mais bon, voilà, moi je me dis à la limite, bon bah voilà, il a eu ce qu'il méritait. Je trouve que scénaristiquement, c'est pas comme ça que tu donnes envie de voir un rematch entre les deux, parce que manifestement, ils voulaient faire une rivalité entre les deux. Donc c'est pas comme ça que tu donnes envie de faire un rematch, puisque du coup le Big Show a aucune raison de si à la limite parce qu'il a perdu sur disqualification, mais bon c'est faible par rapport à ce qu'ils auraient pu faire, je trouve. Donc voilà, de A à Z c'était mauvais et c'était pas bon, voilà.
Je propose que vu cette tendance, cette ligne que tu me donnes, cette transition, ton flop, ton top et ta note, c'est effectivement le mot de la fin.
Eh bien, écoute, facile, mon flop, voilà, j'ai déjà expliqué pourquoi. Je vais le donner spécifiquement à Big Cass, mais bon, ça pouvait être au segment d'ensemble. Voilà, ça, c'est un peu un commentaire qu'on a souvent avec Irem à SmackDown, c'est que quand on a des opportunités, il faut savoir les saisir. Il était en main event de Raw face à un vétéran du business et j'ai trouvé qu'il n'avait vraiment rien montré. Alors après, c'est la faute des Road Agents qui ont booké le match, c'est la faute... des bookers qui l'ont mis à la fin de peu importe. Voilà, moi ce que j'avais devant mon écran c'était Big Cass qui faisait de la merde, donc je vais le donner à Big Cass. Mon top, moi je vais le donner à Dean Ambrose et Seth Rollins, parce que j'ai trouvé que même si ça avait pris beaucoup de temps, j'ai trouvé que le fil rouge est vraiment ce qui est le plus intéressant en termes d'écriture à Raw et qui. Enfin voilà, j'ai très très envie de savoir où ils vont avec tout ça et j'ai trouvé que leur petite promo backstage était assez fun. Donc je vais le donner à Dean Ambrose et Seth Rollins. Et ma note, je vais mettre 2,25. Je vais mettre en dessous de la moyenne parce qu'en fait il y avait des bons moments, il y avait des très mauvais moments, mais j'ai surtout eu le sentiment qu'il s'est pas passé grand chose à Raw cette semaine d'un point de vue scénaristique, contrairement à la semaine dernière où il y avait un petit peu des débuts de feu, des graines plantées à droite à gauche. Voilà, là il s'est rien passé de majeur, c'est-à-dire que c'est un épisode que vous pouvez très bien avoir manqué et la semaine prochaine vous serez toujours à niveau. Donc voilà.
C'est, ouais. c'est un peu la même conclusion hein, tout à fait que j'ai. Alors pour le flop, je vais mettre plutôt à bah, la façon qu'ils ont booké ce match féminin, Bailey principalement. Voilà, on l'a expliqué, je vais pas revenir dessus. Mon top, ça va être plutôt sur la Tag Team Division avec les Hardys, le Club et Revival. Je trouve ça plutôt cool.
Ouais, ouais.
Et ma note, ça va être un 2. Voilà, j'arrondis, hein, je suis pas de 2,25, moi, je mets cash entier, 2.
Ça me semblait trop dur, 2.
C'était ultra dispensable, pas de match qui reste en tête, pas de segment non plus de fou, donc malgré l'annonce de Paul Heyman au début sur l'avenir de peut-être Brock Lesnar.
Après, ouais, il y avait que ça, c'est vrai. Y avait
mais
ça.
Ouais, c'était en 10 minutes, on t'avait donné tout ce qu'il y avait de, de vraiment nouveau dans ce Raw. Donc voilà nos chers petits amis sur ce Raw du 31 juillet. On espère que en août ça sera un peu plus folichon. Entre temps, n'oubliez pas bah, du coup bah, de nous regarder sur la chaîne YouTube et de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Sinon, si vous voulez de l'audio, et bah, du coup il y a PodCloud et iTunes. Là aussi, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, tout ce que vous voulez, à interagir avec nous également sur Twitter et Facebook. Le nom c'est Catchup CDC. CDC comme quoi bah comme les cahiers du catch, hein. N'hésitez pas à venir faire un tour sur le site et le forum pour discuter avec la communauté autour du catch. Nous, bah, on vous dit, on donne rendez-vous bientôt pour le supplément. Hein. Donc,
et oui, supplément exactement.
Que Giscal présentera avec IRM, si je m'abuse, ouais. Avec au programme
vendredi,
John Cena
le supplément.
Contre Shinsuke ouais. Nakamura pour le
exact.
First contender du WWE Champ. Donc, ça fait un match intéressant à voir. Donc,
ouais, et puis, et le retour de Chris Jericho, à savoir qu'est-ce qui va nous préparer encore ce diable. De
oui,
Chris
bon,
bah,
ça suffit, ta promo là. On a Catch-Up Pro et pas Catch-Up supplément SmackDown.
On vous donne rendez-vous donc, vendredi midi.
On vous donne rendez-vous Catch-Up Pro. la semaine prochaine pour un Raw encore mieux que celui-ci, ça sera pas dur.
Entre-temps,
merci
Giscal
quand même.
Merci Amiral, c'était
et
un plaisir.
Et ben, on vous souhaite une semaine pleine de catch.
Allez, ciao tout le monde. Salut.